Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le réseau FM+, si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous hebdomadaire, des mots pour le dire, comment dire, oui, c'est justement, eh bien c'est Michel Théron qui nous aide à dire ces choses en nous emmenant dans les méandres de l'amour, Eros et Agapé. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
Et évidemment, vous êtes sur le 91 MHz, si vous êtes sur l'agglomération Montpellier-Rennes pour nous accompagner dans ces méandres, ou bien sur le 103.1 de l'amour, d'Eros et Agapé, sur le 103.1, donc Radio Alliance Plus sur l'agglomération nîmoise. Alors Michel, la semaine dernière, on s'était quitté, donc après avoir abordé la préservation des commencements, où c'était pas de la nostalgie, on a dit, mais c'est plutôt de dire, il y a peut-être à redécouvrir. C'est un peu renaître, hein, c'est comme la nature s'épuise et puis renaît avec d'autres couleurs, un autre éclat et qui revient à chaque fois. Voilà, donc vous nous avez invité à entrer dans cette dimension. Et aujourd'hui, on va démarrer sur d'autres excès asymétriques. Donc on verra ça avec vous. Et juste avant de vous donner la parole, comme toujours, on revisite quelques citations. La première est celle de Ken Follett, dans Les Piliers de la Terre, hein, on a vu toute une série à la télévision, qui dit « L'excès d'orgueil est un péché courant, mais un homme peut aussi bien décevoir la volonté de Dieu par un excès d'humilité. » Ensuite vient Tahar Ben Jelloul qui dit « La passion est un excès de vie, un excès de lumière, impossible à étaler dans un quotidien. » Et enfin, L'Homme qui rit de Victor Hugo qui dit « La langue française... dès cette époque commence à être choisi par les peuples comme intermédiaire entre l'excès des consonnes du Nord et l'excès de voyelles du Midi. »
Voilà. Donc effectivement, contre ces deux excès, il faut trouver la mesure. Le proverbe latin, c'est « est modus in rebus ». Ça veut pas dire la mode est au rébus. Ça veut dire il y a une mesure dans les choses. Voilà, deux excès symétriques. Dans l'émission précédente, j'ai fait l'éloge du jeu, qu'on peut jouer, trouver des expédients, des moyens pour faire ranimer la flamme. Non pas celle du soldat inconnu, mais la flamme de notre amour, si elle...
C'est de la passion.
De la passion, voilà. J'ai fait l'éloge du jeu. Alors le jeu me semblait essentiel pour lutter contre l'érosion du temps qui dévore tout. Alors, face à cet état de fait, le temps nous dévore tout le temps, hein, certains peuvent en prendre leur parti, dire après tout que cela est ainsi, qu'on n'y peut rien et qu'il faut s'en accommoder. Et ainsi, toute vie va relever de ce que Paul Diehl, dans un livre essentiel qui s'appelle « Le symbolisme dans la mythologie grecque », qui est paru chez Payot en 2002, appelle la banalisation. Voilà, la banalisation. Alors, la banalisation, c'est un pôle symétriquement opposé. C'est l'exaltation, qui est l'un des deux dangers majeurs qui menacent notre psychisme. Et aussi, évidemment, chaque être voulant nouer une relation amoureuse. Et il faut donc, avant que le jeu salvateur de l'amour puisse s'exercer pleinement, connaître ces deux dangers. Donc, j'ai appelé ça deux excès symétriques, exaltation, banalisation. Alors, prenons l'exaltation. Les grands amoureux idéalistes sont exaltés, par exemple Don Quichotte vis-à-vis de Dulcinée, ou bien Madame Bovary. Alors, cette Dulcinée, c'est une femme idéale que Don Quichotte a imaginée à partir de la lecture des romans de chevalerie, dans le roman de Cervantes. Bon, le roman de Cervantes, c'est une satire des romans de chevalerie, si on les prend au premier degré. Et alors, Don Quichotte poursuit Dulcinée. Et quand il croit la voir dans la figure d'une servante d'auberge, son valet Sancho Panza lui dit « Mais vous voyez bien, maître, mon maître, que c'est une servante d'auberge, elle est sale, elle sent mauvais, etc. » Alors Don Quichotte, qui est mythomane, dit « Mais non, c'est Dulcinée, mais elle a été enchantée. Elle a subi un maléfice. » Vous voyez, voilà. Donc il ne veut pas se rendre à l'évidence. Alors je viens de parler de mythomanie. La mythomanie, c'est le fait de croire justement aux fantasmes créés par son imagination. Alors, Madame Bovary de Flaubert a la même structure que Don Quichotte de Cervantes. La différence, c'est que c'est plus tragique, Madame Bovary. On rit de Don Quichotte quand il se bat contre des moulins à vent, qu'il prend comme des seigneurs ennemis, etc. Et le monde, si vous voulez, est trop large pour l'âme de Don Quichotte, qui est trop étroite, en quelque sorte. Tandis que dans Madame Bovary, c'est peut-être le contraire. Peut-être que c'est le monde qui est trop étroit, hein, trop rétréci par rapport aux rêves que Madame Bovary se faisait. Elle aussi a lu des romans romanesques, des romans, nous dirions aujourd'hui, à l'eau de rose, hein. Et elle croit que la vie, effectivement, obéit à ce qu'elle voit dans les livres, hein. Mais on ne sait pas qui a le meilleur partage. Est-ce que c'est elle, ou bien est-ce que c'est le pharmacien Homé, Monsieur Homé, qui incarne la bêtise petite bourgeoise, satisfaite, Monsieur Homé volontiers anticlérical, hein. Il est exactement comme Sancho Panza. Sancho Panza, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est où est-ce que l'on va dormir ce soir? Qu'est-ce que l'on va manger ce soir? Vous voyez, c'est les côtés matériels de la vie. Monsieur Homé, c'est la même chose, c'est un matérialiste, hein, qui incarne le scientisme dans toute son horreur, hein. Alors, ni Sancho Panza, ni Monsieur Homé n'ont souci de leur âme, vous voyez. Mais les filles d'Emma Bovary sont en très grand nombre, hein, je ne sais pas, je pense par exemple à Blanche Dubois dans Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams, hein, c'est une mythomane de la même façon, hein, donc je pense aussi à Thérèse d'Esquerou dans le roman de Mauriac. Elle est mal mariée, cette Thérèse, mais et son mari est trop vulgaire, exactement comme le mari d'Emma dans le roman de Flaubert, hein. Donc ce sont des êtres dont l'âme est trop large pour le monde, vous voyez, hein. Donc c'est assez tragique parce qu'ils vont être broyés par le monde, hein. Alors, si je reprends les banalisés, d'abord ils oublient leur âme, Sancho ou bien Monsieur Homé, ensuite ils oublient même leur oubli, hein, ils oublient qu'ils ont oublié l'âme, et ainsi il n'y a plus chez eux d'âme qui vive, hein. Donc, aussi bien les banalisés, chez Cervantes ou Flaubert, ressemblent à ce dernier homme dont parle Nietzsche dans le prologue d'Ainsi parlait Zarathoustra. C'est le prologue au chapitre 5. Hein. Le dernier homme est pleinement satisfait de sa propre petitesse, hein, et se moque de tous les grands idéaux. Voici ce qu'écrit Nietzsche. C'est le dernier homme qui parle, hein. Hélas, le temps est proche où l'homme ne mettra plus d'étoiles au monde. Hélas, le temps est proche du plus méprisable des hommes, qui ne sait plus se mépriser lui-même. Voici, je vous montre le dernier homme. Amour, création, désir, étoile, qu'est cela? Ainsi demande le dernier homme, et il cligne de l'œil, vous voyez. Alors sa race est indestructible comme celle du puceron, il sautille sur la terre, dit Nietzsche, hein. Donc c'est un homme qui n'a plus d'âme, en quelque sorte, hein. Et les grandes valeurs qui font bouger les hommes, l'amour, la création, le désir, l'étoile, bien tout cela n'est pas reçu, si vous voulez. C'est ce que l'on appelle l'unidimensionnalité. Alors je renvoie les auditeurs au livre de Marcuse, L'homme unidimensionnel, hein, la platitude définitive de ces êtres, hein, est quelque chose qui signifie le manque d'une transcendance quelconque. Ce qui fait un homme, vous voyez, me semble Redouane, c'est la transcendance. Pascal dit l'homme passe infiniment en l'homme. Alors faites attention, il s'agit là d'une antanaclase, c'est-à-dire de la reprise d'une figure stylistique ou rhétorique, reprise d'un mot en lui donnant un sens différent. Dans l'homme passe infiniment l'homme, ça veut dire l'homme idéal, hein, et passe l'homme réel, si vous voulez. C'est l'opposition entre une essence, un archétype et une réalité factuelle. Vous voyez, l'homme passe infiniment l'homme. Donc il y a humanité quand il y a transcendance, quand l'homme a un idéal quelconque, hein. Mais si cela disparaît, alors l'homme s'aplatit, hein, et Marcuse parle très bien de la lutte contre la transcendance, dans L'homme unidimensionnel. Vous en avez une autre version dans le roman d'Huxley, Le meilleur des mondes. Hein, dans Le meilleur des mondes, qui est un roman dystopique, c'est-à-dire un roman, le contraire de l'utopie, nous montre l'homme moderne qui ne se considère que comme un tas de viande, en quelque sorte, c'est-à-dire un paquet d'instincts, et il n'y a plus, justement, ce but dont parlait Nietzsche, amour, création, désir, étoile, le dernier homme, l'homme moderne décrit par Huxley, ignore tout cela. Ils ignorent, par exemple, la fidélité, chacun appartient à tout le monde, on élève les enfants par système hypnopédique, c'est-à-dire quand ils dorment, on leur transmet un catéchisme, hein, ces hommes ne connaîtront plus la fidélité amoureuse, n'auront plus l'exaltation dans le sentiment amoureux. C'était bon pour autrefois. Alors ils sont heureux peut-être, mais le bonheur peut être vu comme le tombeau de la transcendance, vous voyez. Et finalement, ils ne souffrent pas peut-être, mais sont-ils encore des hommes, hein? Je crois que il suffit de regarder autour de soi pour voir justement quelles sont les transcendances qui s'opposent aux hommes. Bon, normalement, Redouane, l'idéal, c'est quelque chose qui est inatteignable. L'idéal, c'est un peu comme l'horizon. C'est-à-dire, plus on se rapproche de l'horizon, plus l'horizon s'éloigne. Jamais on ne peut l'atteindre. Hein. Voilà, l'idéal. Que ça soit la femme idéale, la Madone, la dame des pensées, que ça soit Dieu, etc. Bon. Mais aujourd'hui, quels sont les buts des hommes modernes? L'argent, le pouvoir. Mais le problème de l'argent et du pouvoir, c'est qu'on peut les avoir, les acquérir, vous voyez. Hein, ce n'est pas un idéal inatteignable. Et à ce moment-là, une fois qu'on les a, il n'y a plus rien à désirer, hein, comme on dit. C'est-à-dire, il n'y a plus cette tension vers un but. Alors, vous pouvez me trouver peut-être pessimiste, hein, ici, je ne sais pas. Non, je vois que vous êtes d'accord avec moi. Il faut toujours... Le désir, c'est le décentrement, hein, c'est la tension. Alors, prenons le cas de l'exalté maintenant, hein, l'être humain exalté. Celui qui, par exemple, portera au nu et sans aucune distance les prestiges d'Eros. Hein. Alors, il y a un danger aussi dans l'exaltation. C'est pour ça que j'ai parlé justement des deux excès symétriques. Il faut pas trop s'exalter parce que, souvenons-nous de l'exemple d'Icare. Tout le monde connaît Icare. Hein. Icare a voulu s'approcher du soleil. Hein. Son père Dédale, l'architecte qui avait construit le Dédale, le labyrinthe dans lequel le Minotaure était enfermé en Crète. Hein. Bon, c'était un technicien, ce Dédale. Il avait fait à Icare des ailes pour qu'il vole. Et il avait attaché ses ailes avec de la cire. Alors Icare a voulu s'approcher du soleil. Mais s'approchant trop du soleil, la cire a fondu. Et donc, les ailes sont tombées. Et alors, Icare est tombé. Il s'est noyé. Il y a un tableau de Bruegel qui s'appelle « Paysage avec la chute d'Icare » où on voit Icare avec simplement ses deux jambes qui dépassent de la surface de l'eau et qui va se noyer. Hein. Alors, c'est quoi le symbole ici, hein? Supposons que le soleil symbolise cette volonté que la vie soit toujours supérieurement éclairée, hein, magnifiée, c'est-à-dire une vie toujours poétique et pleine de rêves. Hein. Eh bien, là aussi, l'idéal n'est pas accessible. Prenons un autre exemple, l'exemple de Phaéton dans la mythologie grecque, de la même façon. Hein. Phaéton n'a pas pu conduire le char qui était réservé au seul Apollon, le char d'Apollon. Apollon, c'est Phoibos en grec, c'est-à-dire le lumineux et le brillant. Et lui aussi, hein, Phaéton, est tombé. Donc, ce qui guette, l'exalté, c'est la submersion, la noyade finale, hein, dans l'eau, alors que ça peut être l'inconscient, on peut l'imaginer de différentes façons, hein. On peut dire que c'est le châtiment de l'hybris. Hein. L'hybris, c'est l'orgueil humain. Et les Grecs, dans la tragédie grecque, l'hybris est toujours châtié par la némésis, c'est-à-dire la justice distributive, si vous voulez. Hein. Donc, le châtiment d'Icare, c'est quelque chose de très parlant. Moi, j'y vois la poétisation de la vie. Les ingénieurs pourraient y voir aussi le danger qu'il y a à trop défier les lois voies naturelles, vous voyez. Par exemple, lorsqu'on a envoyé, lorsque les Américains, les États-Unis ont envoyé dans la Lune, dans l'espace plutôt, des capsules, certaines n'en sont pas, ont éclaté, hein. Bon, vous voyez, donc ça c'est peut-être aussi un symbole, hein, l'hybris technique. Je préfère y voir, moi, en tant que littéraire, le désir que la vie soit toujours pleine de rêves. Eh bien, ça aussi, cela n'est pas possible. La vie, vous voyez, Redouane, c'est une TSF, la vie. Autrefois, la TSF, la radio, elle avait, c'est pas le cas de FM+, heureusement. Mais autrefois, je me souviens, dans les premiers postes, il y avait souvent des grésillements, les ondes folles, si vous voulez, les interférences. Hein. Alors, on pouvait entendre, par exemple, une musique magique, Mozart ou Bach, et puis, tout de suite après, c'était violé, en quelque sorte, par les parasites de la radio, vous voyez. Or, la vie, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a de grands rêves, et puis, il y a le trivial, les parasites qui viennent détruire ces rêves, mais provisoirement. Alors, le problème, c'est que dans la vie, on ne peut pas zapper, il faut tout prendre, il faut prendre à la fois la belle musique et les parasites, si vous voulez. La vie, c'est un mélange, imaginez un livre qui soit mélangé ou serait mélangé du Feydeau, de l'amusant, et du Shakespeare, du très tragique, vous voyez. Tout est mélangé. Et l'exalté, il lui manque la perception de ce mélange, vous voyez. Il voudrait que n'entende toujours que du Mozart ou du Bach. Or, ce n'est pas possible. Il y a du trivial. Souvent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait prendre au sérieux ce qui en vaut la peine, Bach, Mozart, etc., et rire du reste, vous voyez, rire du reste, d'où le rôle de l'humour. Mais celui qui est trop exalté manque précisément de cet humour, qui était, à mon avis, essentiel pour le salut psychique, en quelque sorte. Hein. Il faudrait regarder les choses en farce, comme disait Louis Scutener, hein, un surréaliste belge. Bon, donc, voilà, savoir rire, hein, des choses qui nous déçoivent. Mais pour cela, il faut avoir beaucoup de distance que n'a pas précisément l'exalté. Alors, pour écouter une illustration de cette exaltation magnifique qui nous pousse jusqu'au sommet, eh bien, j'ai choisi la chanson que tout le monde connaît d'Edith Piaf, l'hymne à l'amour, que nous allons écouter.
Si tu meurs, que tu sois loin de moi.